c'est pas toute notre liste à nous. Bien. De toute façon, je ne vais pas parler très longtemps parce que je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir discuter avec mes deux collègues et amis. Et surtout parce que, pour tout vous dire, l'essentiel de ce que j'ai à dire sur Hannah Arendt, je l'ai dit dans les différents textes qui se composent cette édition. Et comme j'imagine que certains d'entre vous les ont lus, je ne veux pas redire plus brièvement, plus confusément ce que j'ai essayé de dire clairement. Ce que je voudrais, c'est simplement essayer d'expliquer en deux mots le projet de cette édition et la manière dont, je crois, on peut penser les relations entre ces quatre ouvrages. Le but, à l'origine, c'était de réunir les principales œuvres de Hannah Arendt sur la pratique et sur la politique, plus exactement les plus grandes œuvres publiées du vivant de Hannah Arendt, puisque nous avons écarté les trois parties de ce qui s'appelle la vie de l'esprit, qui est un ouvrage posthume et inachevé, dans lequel probablement Hannah Arendt s'engageait dans des voies nouvelles dont on ne sait pas exactement où ça l'aurait conduit. Le titre que j'ai choisi, L'humaine condition, dont chacun comprendra qu'il se réfère lointainement à Montaigne, m'a été inspiré par un des nombreux problèmes qu'a rencontré la traduction de l'œuvre d'Anna Arendt. Peut-être certains d'entre vous, autrefois, ont lu en français un ouvrage qui est intitulé en français Condition de l'homme moderne. En anglais, il s'appelle The Human Condition. Pour des raisons évidentes, la condition humaine, c'était un peu difficile de reprendre le titre en France. Et on a choisi ce titre, Condition de l'homme moderne, qui est un peu curieux parce que, comme le disait mon regretté ami Castoriadis, c'est un peu curieux d'appeler Condition de l'homme moderne un livre dont la moitié parle de la Grèce. Mais enfin, c'est le titre qui s'est imposé et que Calman Levy, qui est l'éditeur qui a les droits sur la traduction que nous avons repris, a souhaité conserver, si bien que j'ai choisi de donner le titre L'humaine condition à l'ensemble dont je voudrais un peu montrer la cohérence. Condition de l'homme moderne, admettons ce titre, c'est un ouvrage très ambitieux. C'est probablement celui qui expose quelque chose comme à la fois la philosophie première, pourrait-on dire, et l'anthropologie de Hannah Arendt, qui par ailleurs, je vais revenir sur ce point dans un instant, a toujours prétendu qu'elle n'était pas une philosophe politique. Elle n'est pas une philosophe politique, on va voir, mais elle est quand même, me semble-t-il, une philosophe qui a une réflexion sur la politique et les fondements catégoriels, disons, conceptuels de sa réflexion se trouvent dans Condition de l'homme moderne. On Revolution, c'est un ouvrage, je crois, d'une importance très considérable qui porte, comme vous savez sans doute, sur la tradition des révolutions modernes, sur ce que Arendt appelle le trésor perdu des révolutions modernes, et qui est constitué notamment pour une bonne partie, pour l'essentiel du livre, d'une comparaison entre les deux grandes révolutions fondatrices de la démocratie moderne, que sont la révolution française et la révolution américaine. Sur le plan éditorial, c'est ce qu'il y a de plus nouveau dans le volume quarto, parce que la traduction a été entièrement refaite. Bon, les traductions des autres livres ont été simplement révisées. Là, nous avons estimé qu'il fallait impérieusement une nouvelle traduction, parce que ce qui était disponible en français chez Gallimard était d'autant plus méritoire de faire une nouvelle traduction qu'il en avait eu dans le magasin, était franchement inutilisable parce que c'est à la fois très éloigné du texte de Arendt et à peu près incompréhensible. Donc ça fait quand même beaucoup de défauts pour une traduction. Et ça n'a pas aidé d'ailleurs, je pense, à la réception de ce livre en France, qui par ailleurs avait toutes sortes de raisons pour choquer le public français, comme on le voit encore dans une note d'un ouvrage récent de Jean-Claude Milner, qui est parfois mieux inspiré, qui dit qu'on voit bien ce que c'est que ce livre, c'est qu'elle a, elle a payé son accès à la citoyenneté américaine en débinant la Révolution française. Bon, vision un petit peu polémique, dis donc. Et enfin, les deux derniers ouvrages, ce sont La crise de la culture et Les mensonges de la violence. La crise de la culture est probablement un des ouvrages les plus célèbres, je crois, en France, de Hannah Arendt. C'est un recueil d'articles dont beaucoup sont classiques, et dont un, notamment, a une notoriété considérable, très au-delà des Arendtiens, c'est l'article sur la crise de l'éducation. Et enfin, le dernier ouvrage repris, c'est également un recueil d'articles, articles plus directement politiques, qui en anglais s'intitule « On Violence » et en français « Du mensonge à la violence », dont l'essentiel sont considérés à la crise politique américaine au moment de la guerre du Vietnam. Donc voilà les ouvrages qui sont réunis dans ce recueil. Pour essayer de voir les relations et le lien qui les peut les unir, je crois qu'on peut tout simplement soulever trois questions qui sont celles du style de pensée, pourrait-on dire, de Hannah Arendt et de son rapport à la philosophie. Deuxièmement, de la manière dont elle interprète l'histoire moderne, et notamment l'histoire des révolutions modernes. Et enfin, ce qui est à mon avis souvent mal compris des lecteurs français, c'est sa relation complexe avec l'Amérique et avec la culture américaine. Relation complexe qui d'ailleurs pose également le problème indirectement de sa relation avec les expériences politiques françaises. Quelques mots sur le style de pensée. Philippe a évoqué tout à l'heure, et j'ai rappelé moi-même, le fait que Hannah Arendt prétendait qu'elle n'était pas philosophe politique, alors que sa culture est évidemment la culture d'une philosophe, et que l'essentiel de son œuvre porte sur des questions de politique, soit de théorie politique, soit de politique contemporaine. Cette formule, je ne suis pas une philosophe politique, doit être comprise, me semble-t-il, comme une formule polémique contre une tradition qui pour elle est la tradition dominante de la philosophie politique, ou la tradition de la philosophie politique, qui est la tradition platonicienne, dont elle considère que celle-ci a fait violence, disons, à l'expérience proprement politique des humains, en développant d'un côté une position qui dévalorise l'action par rapport à la théoria, et qui, dévalorisant l'action ou la praxis par rapport à la théoria, implique l'idéal d'une direction des actions humaines à partir d'un point de vue qui c'est Platon et celui du philosophe froid, mais dont on peut trouver beaucoup d'avatars dans la pensée antérieure. Alors c'est en ce sens qu'elle n'est pas une philosophe politique, et c'est cette tradition qu'elle continue de trouver et de combattre, y compris chez son maître Martin Heidegger, au terme d'ailleurs d'une lecture, je crois, extrêmement attentive, moins complaisante qu'on ne le croit parfois, et qui, à mon avis, est tout à fait vérifiée si on lit avec un peu de patience des textes de Heidegger qui n'étaient pas très connus, enfin qui sont publiés et pour beaucoup d'entre eux traduits en français maintenant, mais qui ont été souvent longtemps méconnus ou inconnus, notamment par exemple le grand cours sur le sophiste, qui est un ouvrage par exemple où on voit très bien comment Heidegger donne par exemple les différences importantes qui peuvent séparer Aristote de Platon. Alors c'est à partir de là, je crois, qu'il faut comprendre l'ontologie et l'anthropologie qui sont présentées dans Conditions de l'homme moderne, qui représentent à la fois d'un côté une théorie générale de la, pourrait-on dire, de la, la diversité des types d'activités humaines. Bon, on sait, la connaissance, l'action, le travail, etc. Et le tout dans un enchaîné, dans un récit historique qui, lui, doit beaucoup à Heidegger. Le résultat auquel est supposé parvenir la condition de l'homme moderne, c'est de montrer qu'il y a une place particulière à quelque chose qu'on peut appeler pleinement l'action dans le domaine des activités humaines, et qui n'est réductible ni à l'effort pour atteindre la maîtrise de la nature, qui relève plutôt du travail, ni bien entendu à la contemplation, et qui est supposé être le point d'articulation, donc enfin le point sur lequel quelque chose comme une politique au sens plein peut se déployer. Et c'est cette question qu'on va retrouver dans le deuxième des grands livres réunis dans ce recueil, qui est On Revolution, qui est essentiellement fondé sur une discussion des révolutions françaises et américaines et sur une comparaison entre les révolutions françaises et américaines, qui est un livre très, très profond, très riche et souvent paradoxal. Je suis forcé de montrer qu'il est beaucoup mieux informé qu'on ne l'imagine en général, mais qui est un livre qui est inséparable d'une réflexion politique avec de fortes composantes polémiques qui traduisent quelque chose, bien entendu, de la vie de Hannah Arendt. C'est un ouvrage qui est, je crois, un peu difficile à comprendre pour le public français, surtout quand celui-ci est intéressé à ne pas le comprendre, c'est-à-dire tombe dans ce que l'international situationniste appelait de manière assez savoureuse le confusionnisme intéressé, que les situationnistes distinguaient du confusionnisme spontané. Le confusionnisme intéressé, en l'occurrence, c'est celui qui consiste à ne chercher à ne pas voir ce que Arendt veut dire, qui est quelque chose d'assez paradoxal, parce que moi c'est la thèse que je défends, qui n'est pas universellement admise, c'est que c'est probablement dans cet ouvrage qu'on voit très bien que ce qui fait le charme particulier de Hannah Arendt, je crois qu'il faut prendre le terme de charme au sens le plus fort, c'est une combinaison très séduisante entre une position ou une rhétorique qui fait appel aux énergies révolutionnaires et au bout de l'action, de la transformation, de la fondation, du recommencement à zéro, tout en développant par ailleurs une critique extrêmement aiguë et même assez virulente de ce qui fait l'unité de la tradition politique française à ses yeux, c'est-à-dire le passage qui va d'une politique des droits de l'homme à une révolution terroriste, la médiation étant donnée, et beaucoup de lecteurs français ne veulent pas le voir, par l'importance que prend la question sociale dans la Révolution française. C'est un livre du coup un peu paradoxal, qui contient à la fois un éloge de l'idée révolutionnaire, une déploration du déclin de la tradition révolutionnaire, et par exemple un éloge extrêmement ferme et appuyé de l'œuvre de Burke, dont elle dit que son célèbre plaidoyer contre les droits de l'homme n'est ni périmé ni réactionnaire. Alors j'ai fait moi-même souvent l'expérience de discuter de ces textes avec des Arendtiens, qui me disaient qu'ils n'existaient pas, même quand je leur mettais sous les yeux. Je dis, mais non, elle ne veut pas dire ça, parce qu'elle a toujours défendu les droits. Je me souviens d'un colloque à Beaubourg, où j'avais intitulé de manière un peu provocative, provocatrice, mon topo, Hannah Arendt, critique des droits de l'homme, et une des participantes m'a dit, mais écoutez, je comprends tout ce que vous voulez dire. Après un topo où j'avais cité 50 textes, je ne comprends pas tout ce que vous voulez dire. Hannah Arendt, c'était quelqu'un de très bien, elle ne pouvait pas être contre les droits de l'homme. Bon, je lui dis, si vous voulez dire par là qu'elle est pour la liberté de la presse et qu'elle n'est pas favorable à la torture ou à l'inquisition, je vous souhaite, l'accorde volontiers, mais elle fait quand même plusieurs textes où elle explique pourquoi les droits de l'homme sont quelque chose de problématique. Mais c'est quelque chose de problématique parce que les droits de l'homme, pour elle, ils reposent sur une appréhension non politique du problème politique, dont le destin presque inévitable, c'est celui de la Révolution française, dont par ailleurs elle instruit également, on peut quand même appeler le procès de la Révolution, en montrant que celle-ci se rattache à toute la tradition politique française, et notamment à la style particulier du rationalisme français tel qu'il existe depuis Descartes d'un côté, et à la doctrine de la souveraineté, qui est probablement l'apport particulier de la France à la pensée politique. Alors tout cela étant contrebalancé, ou en contrepartie, par un éloge très appuyé du fédéralisme américain, de la tradition américaine, qui est supposée échapper à tous les maux de la tradition française. Alors j'ai essayé dans les textes que j'ai mis dans cette édition de clarifier un peu ces questions, en montrant que, quand je dis d'ailleurs que c'est un penseur tout à la fois radical et conservateur, ça ne doit pas être pris comme une dénégation essayant de faire passer la camelote conservatrice sous l'étiquette séduisante de révolutionnaire. C'est les deux à la fois, on n'y peut rien, si on ne voit pas que c'est les deux à la fois, on ne comprend pas. Et enfin, je crois que c'est à partir de tout cela, c'est-à-dire de l'anthropologie qui est développée dans Fondation de l'homme moderne d'un côté, de l'interprétation des révolutions et des expériences françaises et américaines, qu'il faut lire les textes réunis d'un côté dans La crise de la culture et de l'autre dans On Violence. La crise de la culture, c'est un recueil de 9 articles distincts, mais qui est en fait, qui a une très grande unité et qui est un livre, je trouve, extrêmement puissant et intelligent, qui combine des analyses de grand style, d'histoire de la transformation d'idées fondamentales, comme celle de l'autorité, avec des analyses très, très intéressantes sur la société contemporaine et notamment sur la société américaine à travers la crise de l'éducation et à travers la montée du modèle de la consommation de masse et d'un certain nombre d'autres choses. Dans On Violence, qui est un livre plus politique, qui est un livre qui justifie en partie la popularité que peut avoir Hannah Arendt dans certains secteurs de la gauche américaine, ou ailleurs, qu'elle a eu, bien entendu, à son époque, parce qu'elle est critique fondamentale critique à l'égard de la guerre du Vietnam. Ce qu'on voit très bien, à mon avis, c'est le désarroi de Hannah Arendt devant une évolution du régime américain, dont elle se demande si elle ne démentit pas en partie les thèses qu'elle avait défendues auparavant, puisque ce que marque finalement l'expérience qu'elle décrit, c'est l'entrée de l'Amérique dans un système où elle est non seulement puissance souveraine, mais puissance dominante, et où il lui est sans doute difficile de continuer à raisonner comme elle le faisait à l'époque de Jefferson, des auteurs du fédéraliste. Je pense que si on veut comprendre d'ailleurs ces textes, il ne faut pas oublier que au même moment où elle fait une critique, de gauche, de la guerre du Vietnam, elle écrit un texte souvent, quand il est évoqué, c'est en général de manière un peu gênée, qui est son écrit sur Réflexion sur Little Rock, où elle fait une critique très argumentée de l'orientation d'une partie des orientations du mouvement des droits civiques, critique qui repose en dernière analyse sur son adhésion au principe du fédéralisme américain. Alors voilà un petit peu, j'espère avoir donné une idée de l'intérêt de chaque événement dans tout, mais de l'unité de ces quatre ouvrages. Et je pense que c'est assez compliqué.